Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, on part à la rencontre des gibbons. Bonjour Chani.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes un défenseur de la nature, particulièrement de ces grands singes menacés. Vous vivez en Indonésie, vous avez créé une association pour les sauver. On va en parler ensemble, on a presque une demi-heure pour découvrir tout ça. D'abord, on fait les présentations. Chani, ça veut dire quoi votre nom ?
Chani, ça veut dire gibbon en thaïlandais. Simplement parce que mon premier voyage en Asie, il y a plus de 20 ans maintenant, c'était en Thaïlande. Mm-hmm. Et pour eux, pour les gens là-bas, c'était juste impossible de prononcer mon vrai prénom, Aurélien. Et comme je passais mon temps à chercher les gibbons dans la forêt, ils ont fini par m'appeler gibbon.
Et ben voilà, et c'est resté, et c'est très joli. Je disais, les gibbons sont en danger. Ils vivent où ? Et est-ce qu'ils sont partout en danger ?
Alors, ils sont dans le sud-est asiatique. On les trouve de l'Inde jusqu'en Indonésie. Ils sont, oui, de partout, malheureusement, en danger, principalement à cause de la perte de leur habitat.
Est-ce qu'ils sont nombreux à l'état sauvage ?
Alors, tout dépend des espèces. Il y a une vingtaine d'espèces de gibbons. Certaines sont au bord de l'extinction, comme le gibbon de Hainan, sur l'île de Hainan, au sud de la Chine. Il n'en reste plus que 27 à l'état sauvage. D'autres se portent un petit peu mieux, mais tous sont effectivement en danger.
À des grands singes que vous côtoyez depuis des décennies, vous allez nous les présenter juste après la pause. Restez avec nous sur RTL.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton. C'est au bord de la rivière Barito, en pleine forêt indonésienne, que nous retrouvons Aurélien Brûlé, dit Shiny, et Sam, son chien.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y a une quinzaine d'années, Aurélien crée l'association Calawait. Ce projet unique en son genre prévoit la préservation des gibbons dont l'espèce est menacée.
Moi, je vais lui faire voir. Je serai le singe le plus fort du monde.
Tu en es bien capable.
RTL.
À la découverte des gibbons, ces grands singes qui vivent en Asie du Sud-Est et sont menacés de disparition, notre invité Chani les recueille dans une association qu'il a créée en Indonésie. On va comprendre tout à l'heure pourquoi vous vous êtes pris de passion pour les gibbons. Ça date de votre adolescence. Mais d'abord, on a envie que vous nous les présentiez. Quand je parle de gibbons, quand je dis grands singes, ils font quelle taille ?
Alors, c'est le plus petit des grands singes.
D'accord.
Donc, on le nomme un grand singe puisqu'il n'a pas de queue, comme le bonobo, le gibbon, l'orang-outan, le chimpanzé, le gorille. Et par contre, il est tout petit en taille puisqu'il fait à peu près 7 kilos. Mais ce qui les différencie des autres, c'est qu'il a de très longs bras, puisqu'il s'est spécialisé dans un mode de déplacement, la brachiation, c'est-à-dire suspendu sous les branches.
Il vit dans les arbres ?
Il vit dans les arbres et c'est le mammifère qui se déplace le plus vite dans les arbres sans voler.
Alors, autre particularité du gibbon, comme Thomas, il est monogame.
Comme ça, bien. Effectivement, il est monogame, ce qui est très rare chez les primates. Monogame, fidèle, je vais dire.
Ça arrive pas souvent, ça.
Non, chez les primates, chez les oiseaux, oui, mais c'est vrai que chez les primates, pas du tout. C'est le seul grand singe justement qui est monogame.
Donc,
Il est en couple, uni pour la vie. Et les couples se font pas comme ça. Il suffit pas, par exemple, en captivité, de mettre un mâle et une femelle dans une cage. Il faut vraiment qu'ils tombent amoureux.
Donc
il
faut. C'est quoi, il y a des parades, il y a des techniques, il y a de la drague.
Il y a de la drague, mais il y a du body language. Ouais. Mais c'est quelque chose d'unique chez les gibbons. Et en plus, ils sont très territoriaux. C'est-à-dire qu'ils sont sédentaires dans la forêt. Ils ont une parcelle de forêt et ils vont la défendre contre tous les autres gibbons, puisqu'ils vont vivre toute leur vie sur cette parcelle.
Mais comment ils la délimitent, cette parcelle ?
En chantant. Tous les matins, ils poussent des duos, ils poussent de longues vocalises destinées aux gibbons qu'ils ne voient pas, pour leur dire « ici, c'est notre territoire ».
Alors, ce chant, je crois que c'est ça.
Oui,
vous le reconnaissez ?
C'est une partie du chant, c'est ça.
On l'a trouvé, je crois, cet extrait dans l'un des films que vous aviez réalisé pour France 3, où vous nous aviez emmené comme ça à la découverte des gibbons. Ce chant, il est magnifique. Il permet aux gibbons de délimiter leur territoire.
Ouais.
Et en même temps, il les met un peu en danger. Pourquoi ?
Ben oui, parce qu'ils sont du coup très facilement identifiables dans la forêt. Un braconnier ou même moi, dans un fragment de forêt, pour m'assurer qu'il y a des gibbons ou pas, on va attendre les vocalises. S'il y a des vocalises, on sait qu'il y a des gibbons. Et souvent, malheureusement, quand ils vont se mettre à chanter pour marquer leur territoire, ils oublient un peu ce qui se passe autour d'eux et ce qui se passe au sol. Et donc, du coup, c'est très facile de les approcher à ce moment-là. Et quelqu'un de mal intentionné peut très, très bien les chasser.
Alors ça, c'est la version poétique, magnifique de la façon de délimiter le territoire par les gibbons. Mais il y a une autre version plus violente, défendre ce territoire.
Mais exactement, tous les chants, c'est la raison même pour éviter trop de conflits. Donc les animaux délimitent leur territoire, mais si jamais il y a un gibbon qui rentre dans le territoire d'une autre famille, ça va être de très violents combats qui peuvent mener jusqu'à la mort de l'intrus.
Alors ils peuvent s'entretuer pour un territoire, et malheureusement en Indonésie notamment, leur espace vital
Exactement.
Se réduit. Pourquoi ?
À cause de la déforestation, principalement pour l'industrie de l'huile de palme. Donc la forêt est convertie en plantation, et les gibbons qui sont très territoriaux ne peuvent pas se partager une forêt plus petite. Donc les gibbons qui se trouvaient dans cette forêt qui a été coupée essaient de survivre dans la forêt qui reste. Malheureusement, dans cette forêt, il y a déjà des gibbons. Donc du coup, les gibbons sont en train de s'entretuer.
On va continuer de découvrir leur univers, votre travail pour sauvegarder les gibbons en Indonésie. Chani, c'est un bonheur de vous avoir dans le studio de la curiosité. Restez avec nous.
RTL.
Il est dit que le Tout-Puissant a créé le singe à son image.
La curiosité est un vilain défaut.
Qui lui a donné une âme et un esprit. Et dans sa grande bonté, l'a séparé des bêtes de la jungle pour en faire le seigneur de cette planète.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Pourquoi les hommes n'ont-ils pas d'âme ? Qu'est-ce qui prouve qu'une étincelle divine existe dans le cerveau des singes ?
De retour dans votre cabinet de curiosité sur la première radio de France avec le premier défenseur des singes qui s'appelle Chani et qui défend les gibbons. Alors vous nous parliez de leur territoire tout à l'heure, des bêtes territoriales disiez-vous, qui vivent en couple avec leur fiancé toute leur vie. Alors est-ce qu'ils ont une petite maison, une cabane, un home sweet home accroché sur la porte ?
Non, c'est le seul grand singe qui ne fait pas de nid, contrairement aux gorilles, aux orang-outans qui font des nids tous les soirs. Le gibbon, lui, il va se mettre simplement sur une grosse branche, accroupi comme ça, et puis il va...
Avec sa fiancée ?
Avec sa fiancée
et ses enfants.
Voilà. Alors, ça dépend des couples, ça dépend vraiment de la personnalité des relations entre eux, en fait.
C'est la personnalité, c'est génial, parce que forcément, il y a des caractériels, il y a des
exactement,
fusionnels...
Exactement, c'est la clé pour nous en captivité, puisqu'on récupère ces jeunes gibbons, on est obligé de faire des couples pour les relâcher dans la nature, donc on fait des couples, on est une énorme agence matrimoniale pour gibbons, et pour faire un couple, il faut vraiment connaître la personnalité, le caractère de chacun des individus pour voir s'il y a possibilité d'affinité ou pas, c'est vraiment la clé.
Ils vous reconnaissent ?
Certains d'entre eux. Il y a des histoires particulières avec certains animaux et donc oui, forcément, il y a des
relations. Ça veut dire quoi, des histoires particulières ? Il y a une tendresse, il y a des sauvetages.
Alors, cette tendresse, il faut cesser d'être égoïste si on veut vraiment les aider. Quand j'étais gamin et que je les observais en parc zoologique, j'avais mes gibbons, entre guillemets. Aujourd'hui, on en a plus de 300 dans nos centres et j'en ai aucun à moi parce que, évidemment, il faut leur rendre leur liberté. Pour ça, il faut rompre le lien entre eux et les humains. Donc, il faut un peu s'interdire d'aller les voir.
Mais c'est-à-dire que vous dites que c'est des animaux territoriaux, mais quand ils arrivent dans votre centre, comment ils font du coup ?
Alors, quand ils arrivent dans notre centre, ils sont pour la plupart tout jeunes. Ils ont été capturés au moment où ils étaient encore accrochés au ventre de leur maman. Les braconniers ont tué la mère et un petit gibbon ne sera adulte qu'entre 5 et 7 ans. Donc pendant toutes ces années, il va les passer dans notre association à Calaouette.
Et il va pouvoir retourner à la vie sauvage après, comprendre comment ça se passe, qu'il doit aussi défendre son territoire, chanter.
Et pour ça, justement, il faut qu'il soit relâché dans la nature en couple. Parce que sinon, il ne pourrait pas revendiquer un territoire. Il ne pourrait pas chanter en duo, justement. Il poussera simplement quelques vocalises, mais ça ne voudra rien dire.
Qu'est-ce qui se passe pour eux quand ils arrivent à Calaouette, dans votre centre ? Ils passent peut-être dans les mains du véto, du vétérinaire ?
Évidemment, on a des cliniques, on a 5 vétérinaires qui travaillent à plein temps à Calaouette. La première étape, c'est avant tout de s'assurer qu'ils n'ont pas été infectés par des maladies humaines, parce qu'ils sont très proches de nous. Au contact des humains, ils peuvent attraper des hépatites, l'herpès simplex, petit bouton de fièvre chez l'humain. Ouais. Ça provoque une encéphalite chez eux. Et ces maladies, surtout, ne sont pas présentes à l'état sauvage. Donc, ce serait un risque de relâcher ces animaux dans la nature si jamais ils étaient malades. Donc, première case, clinique vétérinaire, on fait un check-up, une prise de sang. Et puis ensuite, on va les mettre avec d'autres petits gibbons. Ce dont ils ont besoin, c'est d'autres gibbons, en fait, pas d'humains.
La difficulté, vous nous l'avez dit, c'est de les réintroduire dans la nature. Il faut donc ne pas réintroduire ceux qui sont infectés, j'imagine.
C'est ça.
Créer des couples, mais ensuite, il faut leur trouver un territoire.
Exactement.
Vous parliez de déforestation tout à l'heure. Ça veut dire quoi, ça ?
Déforestation massive, cette forêt qui se réduit comme peau de chagrin. Et donc, du coup, dans les fragments restants, il y a déjà beaucoup de gibbons, comme ils sont très, très territoriaux. On ne peut pas relâcher les gibbons dans ces forêts-là. Donc, il nous faut trouver des forêts vides. Et c'est là où c'est extrêmement compliqué. On a énormément d'animaux prêts à être relâchés aujourd'hui, mais malheureusement toujours en volière à Calaouette, parce que justement, on n'a pas de forêt à leur donner.
En 2008, vous êtes parti seul dans la jungle à Bornéo. Pourquoi ?
2008, donc il y a 10 ans, aujourd'hui c'est en fait les 20 ans de Calaouette. Il y a 10 ans, je voulais faire un petit point et me retrouver en face de cette forêt vierge dont je rêvais quand j'étais enfant. Donc j'ai voulu avoir une introspection aussi, me retrouver seul dans cette forêt vierge, seul avec mon chien pendant un mois, et pour me rebooster, et ça avait plutôt marché.
Ça a été dur aussi, j'imagine.
Et ça a été dur, l'introspection est dure. Faire le bilan, pas forcément la forêt, les gens voient plus expédition en forêt, mais pour moi, cette forêt, je la connais. Dormir seul pendant 30 jours dans la forêt, c'est pas le problème. Le problème, c'est plus de faire un état des lieux de la situation. Est-ce qu'on baisse les bras? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on trouve l'énergie de continuer? Est-ce qu'il y a encore des choses à sauver? Est-ce que faire face à cette industrie de l'huile de palme, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, je me pose plus du tout la question aujourd'hui.
L'énergie,
et on arrive à avoir des victoires. On achète de la forêt actuellement à Bornéo et à Sumatra. On crée des réserves privées et c'est l'une des solutions.
Ah, bravo, ça c'est bien. La curiosité continue sur RTL dans un instant. Vous allez découvrir comment vous, le gamin du Var, vous êtes devenu un primatologue réputé dans le monde entier. À tout de suite sur RTL.
Et l'Oscar est attribué à Monty pour la planète des singes.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
On ne vous veut aucun mal.
Tu crois qu'ils me comprennent peut-être? C'est que des singes, je sais pas si tu te rends compte.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Que des singes, vraiment, tu crois?
Le cinéma fasciné par les singes, la curiosité passionnée par le destin de notre invité, Shani, défenseur de la nature. Alors, les fidèles de l'émission de Michel Drucker, du Monde Dimanche, vous connaissent. Vous êtes en France. Vous venez d'enregistrer plusieurs émissions avec Michel Drucker. On vous avait aussi découvert sur France 3 avec Muriel Robin,
oui,
dans une émission réalisée par Jérôme Corquiquian, que l'on salue, on lui fait un coucou. Mais là, j'aimerais qu'on prenne nos dernières minutes de curiosité pour raconter votre histoire personnelle. Ça commence dans le Var, vous êtes né en juillet 79, et c'est dans ce département que vous découvrez les gibbons. Comment ?
Passionné par les singes, je vais voir les singes proches de chez moi, donc dans un zoo, ouais, Fréjus.
Ça vous rend pas triste, les zoos ?
Ben justement, avec mes yeux d'enfant de l'époque, je vois de la tristesse. Et surtout, il y en a un parmi tous ces singes qui me semble encore plus triste que les autres. Et il s'agit du gibbon. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours tout seul dans les volières et dans les cages. Et en fait, les parcs zoologiques avaient du mal à faire des couples, justement, à cause de cette monogamie. Mais je ne le savais pas encore, mais je voyais qu'il y avait un problème. Donc je suis allé voir le directeur du parc et je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir venir tous les mercredis.
Donc vous consacrez vos mercredis de collégien
au foot avec les copains, ouais. Ben, j'allais m'asseoir devant la cage des gibbons pour comprendre ce qui se passait dans leur petite tête, déceler le problème, en plus des potassés sur leur écologie et sur les espèces. Et puis petit à petit, je suis arrivé avec mes suggestions. J'ai commencé à pouvoir former des couples, on m'a laissé faire, et puis je suis allé dans d'autres parcs zoologiques observer les gibbons. Et ensuite, j'ai commencé un peu par les gibbons. Et c'est comme ça que c'est devenu une responsabilité de les aider, puisque quand on commence à comprendre le problème, si on les aime vraiment, on se doit de
les
aider.
Mais à l'âge de 16 ans seulement, vous avez écrit un livre, Le gibbon à main, oui, blanche. Vous dites aujourd'hui que c'était une démarche un peu prétentieuse.
Oui, c'était très prétentieux, parce qu'à 16 ans, j'étais la personne qui allait apprendre aux autres.
Vous étiez quand même.
à s'occuper des gibbons. Donc oui, il y a une démarche un peu prétentieuse. Moi, je voulais simplement donner des comme ça, un livre photocopié au parc zoologique et aux soigneurs. Bon, il se trouve que ça a été édité et publié.
Ça vous a fait connaître ?
Oui, oui.
Donc ça a ouvert des portes, c'est
exactement, c'est qu'il y a des journalistes qui sont un peu intéressés sur ce gamin un peu étrange. et suite à un de ces articles où je disais, oui, bien, bon, j'ai publié un livre, mais pour moi, les parcs zoologiques, ce n'est qu'une étape. Moi, je veux partir sauver les vrais gibbons, ceux qui sont sauvages là-bas en Asie du Sud-Est. Et un de ces articles est tombé dans les mains de Muriel Robin. Et un jour, en rentrant du lycée, j'ai un coup de téléphone à la maison, Muriel Robin, qui me dit, bien, tu veux partir sauver les gibbons ?
Et vous lui avez dit oui, bah, bonjour Muriel.
Et bah, au début, j'ai cru que c'était une blague.
Oui, bah, moi aussi, mais pareil, je suis dans ce zoolido.
Exactement, exactement. Ah, oui. Et elle m'a dit non, c'est bien moi. Et puis j'ai lu un article sur toi. Tu veux partir sauver les gibbons, et bien tu pars. Je vais t'aider et je serai toujours là.
Elle vous a financé?
Elle m'a financé mon premier voyage. Je suis parti en Thaïlande, c'était l'endroit le plus simple pour voir des gibbons. Ensuite, je suis revenu. Je me suis rendu compte que là où il fallait vraiment monter un projet gibbon, c'était l'Indonésie, à cause de tous les problèmes qu'on a là-bas, liés notamment à la déforestation. Et j'ai rencontré Muriel pour la première fois à ce moment-là, en revenant de Thaïlande. Et au lieu de lui expliquer ce que j'avais fait avec ses sous, je lui ai dit que je voulais repartir. Et cette fois sans billet de retour. Et je me souviens encore de son sourire et elle m'a dit fonce, je serai toujours là. Et c'était aujourd'hui, j'ai 39 ans, elle est toujours là.
Et c'était il y a 20 ans, c'est ça ?
C'était il y a plus de 20 ans.
Vous avez sauvé combien de singes ?
On en a relâché plus de 1200 des animaux qui sont passés par nos centres, 1500 si on compte ceux où on est intervenu lors des conflits entre faune sauvage et villageois. Lorsqu'il y a une déforestation, parfois les singes sortent de la forêt et rentrent dans les villages comme ça, donc notre rôle c'est d'aller sauver ces singes et relâcher. Mm-hmm. Donc oui, plus de 1500, 700 gibbons. 640 hectares de forêt achetés. Aujourd'hui, grâce au soutien des donateurs, on arrive...
On peut vous aider ?
Voilà, allez sur le site internet kalawet.org.
K-A-L-A-W-E-I-T. Hein.
Parfait.
On va le mettre sur Twitter.
Parfait. Et suivre nos aventures sur ma chaîne YouTube, une vidéo toutes les semaines sur nos aventures à Bornéo. C'est du concret, quand on parle des arbres, quand on parle de la forêt est là, les gibbons aussi. Et voilà, on l'illustre en images.
Merci beaucoup, merci Chani, bravo, bon retour en Indonésie. Je crois que vous repartez cette semaine, jeudi. Bon, bah, ça va vous changer, bon retour, bon retour là-bas.
Merci.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.